20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Fallait-il inventer le travail? Les chefs, la société de production et par essence celle de consommation. Les inégalités, la guerre. Le résultat s'avère éloquent. 7 milliards d'humains peuplent aujourd'hui la planète, dont 1 milliard est en surpoids. Un autre milliard ne mange pas à sa faim, alors qu'une minorité, 1%, possède la moitié des richesses mondiales. Comment en est-on arrivé là? Ainsi débute le livre de Jean-Paul Demoule. Pour en comprendre les mécanismes, il nous faut alors remonter le temps, exhumer une histoire jamais contée, celle de 10 millénaires, absent de notre culture générale. Jean-Paul Demoule, bonsoir.
Bonsoir.
Habitué du magazine d'archéologie de France Culture, professeur émérite à l'Université de Paris 1 et à l'Institut universitaire de France, Jean-Paul Demoule, votre livre paru chez Fayard s'intitule « Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire ». 10 millénaires, c'est long. 5 fois plus que la conquête des Gaules, nous faisant rentrer dans l'histoire. Mais Jean-Paul Demoule, dans ce cas, que fait l'histoire, l'histoire officielle?
Bien, justement, elle ne s'en occupe pas de tout. On peut demander à quelqu'un ou quelqu'une dans la rue si elle connaît les hommes préhistoriques, tout le monde les connaît. Si elle connaît les Gaulois, on connaît Vercingétorix et Astérix. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et ça, effectivement, non seulement on ne sait pas, mais ça a même été chassé des programmes scolaires en 2008 avant d'y revenir récemment.
Pour vous raconter une autre histoire, c'est possible?
Oui, bien sûr que c'est possible, parce que c'est effectivement, comme le disaient les phrases introductives que vous avez citées, c'est effectivement là que tout s'est joué.
Mais c'est une histoire sans écriture.
Oui, bien sûr.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce n'est pas une histoire.
On parle quand même des hommes préhistoriques, on a Lascaux et toute la vision, les BD, etc. Donc non, je pense que c'est plus compliqué que ça.
Nous pensons aujourd'hui vivre dans une vraie société d'opulence, mais il n'en est rien. Les vraies sociétés d'opulence et d'abondance furent celles des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, du moins pour l'anthropologue américain Marshall Salins.
Oui, parce que effectivement, si on regarde un certain nombre de sociétés de chasseurs-cueilleurs, même s'il y a eu des débats autour de ça, leur temps de travail, c'est-à-dire pour ramasser et préparer de la nourriture, est en moyenne de 3-4 heures par jour. Donc c'est la semaine de 21 heures. Et c'est pour ça que Salins disait que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs ont été les seules sociétés d'abondance, puisque c'est le rapport entre le coût et le profit. Alors on va dire évidemment, oui, mais il n'y avait ni Internet, ni la télévision, ni la radio. Mais en même temps, on sait bien que le niveau de vie de Louis XIV, de Napoléon, était bien inférieur au nôtre, et que le nôtre actuellement, si l'humanité continue à progresser techniquement, sera dérisoire par rapport à ce qui sera dans 1000 ou 10 000 ans. Donc l'abondance, c'est relatif, c'est pas absolu.
En tout cas, pourquoi dans ce cas inventer l'agriculture et son cortège de nouveautés, le néolithique, l'élevage et la sédentarisation? S'agissait-il réellement d'un choix?
C'est un vaste problème, parce que c'est l'apparition de l'agriculture et l'élevage ne s'est pas faite partout où ça aurait pu se faire. Et ça demande un certain nombre de conditions, évidemment des espèces de domesticables, à être capable d'inventer les techniques qui vont avec, le stockage, soigner les animaux, les nourrir, etc. Mais ça ne s'est effectivement pas fait partout. Donc il a fallu aussi des facteurs de l'ordre de l'idéologie, de la culture, etc.
Justement, les causes pour vous, elles sont économiques, environnementales, ou plutôt justement culturelles et idéologiques?
Je pense qu'elles sont toutes à la fois. Il y a des conditions qui sont nécessaires, comme l'environnement et la technique, mais qui sont pas forcément suffisantes, et puisqu'on a des sociétés de chasseurs-cueilleurs même qui ont pu pratiquer une petite agriculture, mais sans aller plus loin. Donc il y a aussi quelque chose qui se passe dans la tête, un nouveau rapport à la nature, de domination plutôt que de se sentir au sein de la nature, qui lui ne serait pas suffisant à lui tout seul, mais qui a été effectivement nécessaire.
Justement, oui, bien sûr. En tout cas, c'est le moment que l'homme, au moment où l'homme quitte la nature, et qu'il en prend possession, qu'il devient par essence, on va dire, dénaturé.
Oui, parce que les chasseurs-cueilleurs, ils se perçoivent, ils se représentent essentiellement au travers des animaux. C'est pour ça qu'ils peignent des animaux sur les murs des grottes et très peu les humains. Ils se perçoivent comme une espèce animale parmi d'autres et pas la plus forte. Et on sait que traditionnellement, les chasseurs-cueilleurs demandent l'autorisation de tuer des animaux et remercient l'animal ou l'esprit des animaux pour l'avoir fait. Alors que là, on va avoir se mettre en place un système brutal de domination sur la nature et sur les animaux.
Ainsi, devenir agriculteur a changé notre vision au monde, mais aussi notre vision du monde.
Oui, totalement, puisque le monde nous devient, ça devient quelque chose d'acquis dont on peut faire, qui nous appartient et dont on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est ce qu'on peut observer maintenant. Effectivement, on est dans une période de crise écologique. C'est un secret pour personne. C'est la logique, effectivement, de cette possession sans contrôle.
De plus en plus de spécialistes de la préhistoire récente pensent que l'Anthropocène, c'est-à-dire cette ère où l'homme devient un agent majeur sur le climat, ne débute pas avec la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, mais dès cette époque, dans les millénaires entre le néolithique et l'âge du fer. J'imagine que vous adhérez vous aussi à cette idée ?
Bien sûr, parce que c'est là que dans toutes sortes de domaines de rapport à la nature vont se mettre en place un certain nombre de phénomènes irréversibles. Ça va être les premiers déboisements par brûlis, par abattage, et l'élevage faisant que les animaux, notamment moutons et chèvres, vont brouter au fur et à mesure les pousses. Donc tout, par exemple, l'environnement méditerranéen très désertique que nous connaissons est un résultat des néolithiques. C'était parfaitement boisé auparavant. L'ensemble de l'Europe était couverte de forêts avec des espèces diverses suivant le climat. Donc les phénomènes d'érosion qui vont avec et que les spécialistes des sciences de la Terre peuvent constater, les effets encore beaucoup plus récents sur le climat, mais également des effets de pollution qu'on mesure dès l'âge du bronze, puisqu'on a les carottes dans les glaces polaires qui nous renseignent sur l'état de l'atmosphère à telle ou telle période, et on peut voir dès l'âge du bronze, donc il y a 4000 ans, des premiers effets justement de cette pollution, y compris d'ailleurs dans les poumons des gens, puisque parmi les plus anciens poumons qu'on ait, c'est celle de l'homme des glaces, l'a trouvé à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Il a déjà les poumons attaqués. Oui, aussi, oui.
Attaqués à quoi ? Quelles étaient les pollutions ?
L'arsenic, le cuivre, le maniement le travail de ces métaux. Et on peut considérer également, pour en rester sur ce plan, qu'avec la domestication qui va transformer profondément les animaux, on a affaire aux premières manipulations génétiques et finalement aussi aux premières atteintes de l'homme sur lui-même, puisque en modifiant complètement son alimentation, qui n'était pas celle pour laquelle il était construit jusque-là, une nourriture omnivore avec des alimentations beaucoup plus molles et sucrées qui va avoir avec les céréales, eh bien on voit exploser les caries dentaires et puis on arrive effectivement à la situation actuelle avec 1 milliard d'humains en surpoids.
Ces millénaires sont le temps de l'expérimentation, de l'innovation. Bien avant la révolution industrielle, émerge alors l'habitat fixe, c'est-à-dire la maison, le bronze, le fer, mais aussi la roue, le plâtre, etc. Nous voici surtout dans le temps du travail, du travailler plus pour survivre.
Oui, effectivement, parce que c'est à partir du moment où on est entraîné dans ce contrôle, cette exploitation de certains animaux et de certaines plantes, ça demande un véritable effort. D'où le fait que, y compris maintenant, nous travaillons à peu près tout le temps. Et quand la société de loisirs, elle était plutôt au départ. Donc ça demande sans arrêt, effectivement, d'autant plus d'inventions techniques nouvelles que un des résultats de l'agriculture et de l'élevage, c'est de sécuriser l'alimentation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes, quand on est chasseur-cueilleur, où à la suite d'un certain nombre éventuellement de fluctuations climatiques, il y ait beaucoup moins d'animaux à chasser, à pêcher, etc. De plantes à ramasser. Là, on sécurise, et on le voit très concrètement en archéologie, puisque la démographie humaine explose. Il y avait quelques centaines de milliers d'êtres humains à peu près il y a 12 000 ans. On a cité les chiffres tout à l'heure. Donc ça fait exploser la démographie. Donc il faut nourrir toujours plus de gens dans un espace qui est fermé. Au début, on a des terres à conquérir. Par exemple, on va coloniser l'Europe à partir du Proche-Orient et arriver jusqu'à l'Atlantique. Mais une fois qu'on est arrivé à l'Atlantique vers 4800, 4500 avant notre ère, eh bien, jusqu'à Christophe Colomb, on ne pourra pas aller plus loin. Donc il faut sans arrêt des nouvelles inventions et qu'on peut très bien observer sur le plan archéologique.
On peut parler d'une sorte de Big Bang expérimental ou d'expérimentation. On expérimente dans tous les sens.
Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Au début, on va coloniser les terres les plus fertiles, donc en Europe, les sols les plus légers, notamment en Europe centrale, ce qu'on appelle les loess, des sols déposés par le vent pendant les périodes glaciaires. Mais ensuite, il va falloir mettre en valeur des sols beaucoup plus durs, beaucoup plus lourds. Donc on invente la charrue, on va coloniser les îles, donc la Grande-Bretagne, toutes les îles de la mer Égée au début. On va occuper les régions plus montagneuses, beaucoup moins propices. On s'imaginait jadis l'emblème du néolithique, c'était les maisons sur pilotis au bord des lacs, donc des sortes de marinas pour ses vacances, donc une espèce de vie idéale. Et en fait, c'est au contraire des zones refuges. C'est là encore où on ne pouvait pas aller plus loin. Donc on monte en altitude, on monte dans des endroits beaucoup moins fertiles. D'ailleurs, sur ces fouilles de bord de lac, comme à Chalin et Clairvaux dans le Jura, m'ont montré qu'il n'y a plus qu'un quart qui est fourni par l'agriculture et l'élevage, parce que c'est un des milieux plus hostiles, et on retourne à la chasse et à la pêche, qui sont encore relativement abondants dans des zones justement écartées.
Vous voyez cette explosion démographique dès l'apparition de l'agriculture, dès le début du néolithique?
Oui,
même archéologiquement.
Oui, on le voit. Il y a des études démographiques assez précises qui ont été faites à partir l'ensemble des squelettes qu'on peut trouver, y compris d'enfants, d'augmentation du nombre d'enfants. On voit apparaître en même temps augmenter le nombre des villages, s'agrandir leur taille. Donc, ça s'observe très bien.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jean-Paul de Moule, qui a inventé les chefs et par là même la servitude volontaire, car servile, nous le sommes depuis lors.
Eh bien, même s'il y a des débats pour certaines différences sociales chez certains chasseurs-cueilleurs qu'on a pu observer, y compris par l'ethnologie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va observer avec le néolithique. Au début, quand on fouille les cimetières néolithiques, il y a assez peu de différences entre les tombes. Il y a des différences entre hommes, femmes, jeunes, vieux, mais assez peu de différences. Et puis, on va voir en Europe, aux alentours de 4500 avant notre ère, par exemple, célèbre nécropole de Varna au bord de la mer Noire, où il y a à peu près 400 tombes retrouvées. Il y a des individus enterrés avec presque rien, ou un vase, un outil en os, et puis il y en a un qui a 1 kilo d'objets en or, les plus anciens objets en or de l'humanité. Il y en a d'autres aussi qui ont des objets précieux, d'autres types d'objets, des haches rares, les premières haches en cuivre, parce que le cuivre commençait à être travaillé. Donc on voit ça se mettre en place, et exactement exactement en même temps à l'autre bout de l'Europe, là où aussi on pouvait pas aller plus loin. Varna est au bord de la mer Noire, et bien au bord de l'Atlantique, où le métal n'est pas encore arrivé, mais on enterre les gens sous des monuments majestueux, ce qu'on appelle les dolmens, qui sont des chambres funéraires qui étaient comme les pyramides, recouvertes à l'origine d'un tas de pierres et de terre, et qui ont aussi des objets précieux, des haches en jadéite qui viennent des Alpes, des perles en varicite qui viennent d'Espagne. Donc ça se met en place à ce moment-là. Alors on pourrait dire c'est pour mieux organiser la société, mais enfin on voit pas pourquoi l'organisation conférerait de tels privilèges. Et effectivement, la servitude volontaire, c'était la question qu'avait posée la Boétie au XVIe siècle, et il y voyait trois réponses. L'habitude, on a toujours vu ça, donc on continue, c'est notre cas actuellement, où les inégalités que vous citiez en début d'émission, 1% de l'humanité à 50% des richesses, voilà, c'est l'habitude. Deuxième réponse possible, et qui s'additionne, les liens de solidarité entre le tyran, d'après la terminologie de la Boétie, et puis ceux qui sont autour de lui, qui eux-mêmes ont des gens autour d'eux, comme le système féodal, qui fait qu'il y a une espèce de contrôle pyramidal de la société. Et puis également, il ajoute la religion. Le tyran utilise la religion pour mal faire. Et de fait, l'ethnologie et l'histoire nous montrent que les puissances sont toujours, se disent liées au surnaturel, d'une autre essence. Les rois européens sont de droit divin. Les pharaons font revenir les crues du Nil, etc. Et on voit bien que dans l'émergence de ces premiers chefs, en Europe, pour les exemples que je prenais, mais même chose dans les autres régions du monde qui voient à peu près en même temps les mêmes phénomènes, eh bien, on voit que c'est notamment dans la relation avec l'au-delà que se mettent en place ces inégalités de plus en plus fortes.
La servitude volontaire, c'est bien entendu l'œuvre de la Boétie. C'est aussi un sujet traité par l'anthropologue Alain Testa. C'est enfin de nombreuses découvertes archéologiques, car la servitude va dans la mort jusqu'à l'au-delà.
Oui, ensuite, par exemple, en Mésopotamie, les rois emportaient leurs servants et leurs servantes.
Les fameuses tombes royales d'Ur.
Oui. Et puis, on a la même chose. On sait que dans la tombe du premier empereur de Chine, il y a aussi des dizaines de concubines.
Jusqu'en France.
Oui, ça a été constaté plusieurs fois, mais dans des cas plus anciens, où on a justement l'illustration au passage de la domination masculine.
En Europe, durant les 5 derniers millénaires avant notre ère, les moments de concentration ostentatoire de la richesse ont été immanquablement suivis par des moments de forte décroissance. Quels sont les processus de ces effondrements socio-économiques ?
Effectivement, quand on compare ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Égypte et ce qui se passe en Égypte et en Mésopotamie, on voit que en Égypte et en Mésopotamie, on s'achemine très rapidement vers des États, les premiers États du monde, des villes, des armées, une police, des scribes, l'écriture, etc. En Europe, ça met plusieurs millénaires de plus. Et l'explication la plus vraisemblable, c'est qu'effectivement, Égypte et Mésopotamie, on peut pas en sortir. C'est des oasis, en fait. Même si ça a l'air grand sur les cartes, c'est entouré, cerné de déserts et de mers et de montagnes. En Europe, c'est beaucoup plus vaste, avec un environnement tempéré. Donc, si un pouvoir devient trop contraignant, eh bien, il va se défaire. Donc, c'est un effondrement pour les dominants, et ça a dû être souvent ce qu'on appelle effondrement, a dû être souvent un soulagement pour les dominés.
Est-ce encore cette époque qui créa la domination des hommes sur les femmes ?
On peut penser que la domination des hommes sur les femmes a été de tout temps, et que c'est probablement même la forme la plus fondamentale de domination, et que la domination plus généralement en fait n'en est que l'extension. Mais c'est un domaine sur lequel il est encore nécessaire de travailler, parce que c'est vraiment à la confluence de plusieurs domaines des sciences sociales. Mais en tout cas, avec le néolithique, on voit effectivement la tombe dont je parlais tout à l'heure, c'est une tombe masculine, et la très grande majorité des tombes riches dans toutes les périodes sont des tombes masculines.
Pourtant, les mythes l'attestent, ce sont les femmes qui auraient eu le pouvoir.
C'est même un thème qui a été repris par certains mouvements féministes qui se sont trompés malgré la justesse de leur cause, puisque pour justifier cette domination, beaucoup de mythes disent que les femmes au début avaient le pouvoir, on a ça en Nouvelle-Guinée, en Amazonie, mais qu'elles s'en servaient tellement mal qu'on a été obligé de leur reprendre. Et si on prend plus près de chez nous, ben les ennuis, c'est Ève qui force le pauvre Adam à croquer la pomme, c'est Pandore qui ouvre la boîte avec tous les mots M-O-U-X de l'humanité, etc. Donc il y a une justification a posteriori, en faisant croire que effectivement c'est elle qui avait le pouvoir, mais elles l'ont bien cherché, elles l'ont perdu.
Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons avec Jean-Paul Demoule les 10 millénaires oubliés de l'histoire, ceux qui couvrent la fin du paléolithique à la conquête romaine, du moins en France. Restons sur le surnaturel. L'émergence du néolithique a-t-il suscité des manifestations idéologiques hors du commun ?
Oui, parce que concernant les chasseurs-cueilleurs, évidemment, tout ne s'est pas conservé, mais en tout cas, à part le cas des peintures pariétales et des petites sculptures, on n'a pas de manifestation idéologique spectaculaire. Or, dès qu'on arrive au néolithique, ça explose. Un des cas les plus célèbres, c'est le site de Göbekli en Turquie, à la limite, près de la frontière syrienne, où on a une série de bâtiments construits en blocs de calcaire qui atteignent 5 mètres de haut avec des bas-reliefs, bâtiments circulaires de 20 mètres de diamètre, il y en a toute une série, et qui passent pour être les plus anciens temples, donc temples construits de l'humanité, et qui sont construits exactement au moment où on est en train de basculer vers l'agriculture et l'élevage. Et on a toute une série de bâtiments un peu comparables dans les périodes qui suivent immédiatement. On voit apparaître des sculptures de taille beaucoup plus grande, des coutumes funéraires de plus en plus complexes, etc.
On savait ce qu'il se passait à Göbekli ? Comment se déroulait le processus ?
Non, pas vraiment. D'abord, c'est une découverte relativement récente. En plus, une découverte allemande, et en plus, le fouilleur Klaus Schmidt est mort prématurément il y a peu de temps, et Göbekli est devenu un enjeu justement entre les Allemands et les Turcs, et ça ne s'améliore évidemment pas vu le contexte dictatorial actuel de la Turquie.
On a aussi beaucoup de statues féminines.
Oui, au début, on a même, à part les représentations animales, qui sont largement majoritaires, chez les chasseurs-cueilleurs, on a des représentations féminines pratiquement exclusivement. Très peu de représentations masculines. Je pense, on a parlé souvent de la fertilité, fécondité, je pense que c'est plutôt la sexualité qui s'agit, parce que l'espèce humaine est la seule où l'amour peut se pratiquer tout le temps. Il n'y a pas de période d'interruption de la sexualité comme chez les autres mammifères. Donc c'est un problème et qu'on voit dans les plus anciennes épopées, les représentations sur les temples grecs, etc. Donc il y a des questions autour de la sexualité, sans doute plutôt d'un point de vue masculin, vu le type de représentation. Eh bien, ça se continue au début du néolithique, parce que c'est les mêmes traditions, mais on voit, comme par hasard, au moment où les inégalités sociales se marquent archéologiquement, c'est exactement le moment où, petit à petit, ces représentations féminines liées à la sexualité s'effacent. Elles vont continuer dans toutes nos religions qui ont aussi comme fonction de contrôle la sexualité. Donc la Vierge Marie a affaire avec ça, par exemple, hein, ou la déesse Kali en Inde. Mais c'est maintenant la représentation majoritaire, ça va être les chefs en armes.
Jean-Paul Demoule, les chefs, les dieux et la guerre forment une sorte de tout cohérent.
Oui, ça va complètement ensemble. Les chefs mâles, les dieux qui seront mâles aussi, qui vont s'organiser. La société des dieux est faite à l'image de celle des hommes. Donc on va avoir affaire à des panthéons hiérarchisés, avec un roi des dieux lié au soleil, un cosmos hiérarchisé, et des sociétés qui aussi, étant de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus violentes en interne, avec des inégalités croissantes, et puis en externe, pour des problèmes de propriété, de territoire et de contrôle des ressources.
Autre thème d'actualité, les migrations. Or, il n'y aurait pas d'époque sans migration.
Ben, on ne peut pas le constater. Les premiers Européens sont des immigrés et toutes les époques qu'on peut... Et on sait bien de l'histoire. Donc on entend des fois qu'il y aurait... La France serait restée éternelle entre la période des grandes invasions du Moyen-Âge et puis les migrations économiques récentes des dernières décennies. En fait, c'est faux. On peut faire une longue liste de tous les mouvements sur le seul territoire français. Et c'est à toute l'échelle. Si on prend l'Europe, eh bien, on a les arrivées des Homo erectus, les premiers humains en Europe, puis Homo sapiens, puis ces agriculteurs venus du Proche Orient, et etc., les Romains, les Grecs, et ça ne s'est jamais arrêté.
Donc aujourd'hui, rien de nouveau ?
Non, absolument pas. Aujourd'hui, les quelques dizaines d'années actuelles sont une goutte d'eau dans l'histoire d'Homo sapiens, qui a entre 100 000 et 300 000 ans, et même par rapport aux 10 millénaires dont on parle aujourd'hui, c'est rien du tout. Donc toutes sortes de millénaires vont encore suivre.
L'adoption de l'agriculture est tel un phénomène irrémédiable, sans retour?
C'est extrêmement difficile d'en sortir. On a quelques cas où des sociétés, par exemple vers le 12e, 13e siècle de notre ère, il y a des dégradations climatiques, sécheresses dans le sud-ouest des États-Unis, donc Amérique centrale aussi. Et il y a des population d'agriculteurs dont certaines vont migrer justement vers des environnements moins défavorables, et puis d'autres vont retourner essentiellement à la chasse, la pêche et la cueillette. Ou comme l'exemple que je donnais, dans des milieux défavorables comme les bords de lac du Jura, où on va se recentrer sur la pêche et la cueillette, ou les populations refoulées dans la forêt amazonienne. Mais en général, c'est quand même, à part ces cas, donc ça veut dire que c'est possible. Il est possible aussi que des sociétés aient commencé l'agriculture et l'élevage et y aient renoncé, étant donné que c'est beaucoup plus complexe. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de preuves. Mais en tout cas, c'est difficile de revenir en arrière.
En tout cas, Jean-Paul de Moule, deux temps forts couvrent notre histoire, cette histoire peu connue de ces 10 millénaires. L'agriculture et le boom démographique, puis dans un deuxième temps, l'émergence de sociétés de plus en plus inégalitaires. C'est à peu près ça le schéma ?
Oui, c'est les deux temps forts. La révolution industrielle et la révolution numérique sont des conséquences à moyen terme. Inventer l'agriculture et l'élevage, c'était fondamental, mais effectivement, ça a déterminé, dans la plupart des cas connus, la naissance des inégalités. Est-ce que du coup, c'était pas bien de le faire? D'une part, ça sert à rien de se poser la question. D'autre part, là, on est dans le domaine, au contraire, culturel, des choix de société, et il n'est pas, en revanche, acquis qu'une société fondée sur l'agriculture et l'élevage serait forcément tout le temps et nécessairement inégalitaire.
D'autres histoires sont aussi à écrire, des histoires qui ne prendraient pas le point de vue des dominants.
Il y a quelques essais, ce qu'on appelle maintenant l'histoire populaire, qui est l'essai de prendre le point de vue des dominés. Ça a été fait aussi, il y a eu des tentatives pour les Amérindiens envahis par les Européens. Il y a des histoires des femmes aussi qui prennent ce point de vue. Donc il y a une prise de conscience depuis quelque temps et qui n'existait pratiquement pas auparavant, de cette question de cette énigme en partie de la domination. Donc il y a d'autres histoires qui sont possibles, mais qui évidemment sont beaucoup plus complexes à construire, puisque on a essentiellement le point de vue des dominants.
Et puis, pour conclure, la Boétie l'a écrit: soyons résolus à ne plus servir, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Jean-Paul de Moule, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, paru chez Fayard, Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire. Et puisque nous parlions de Tyran, je signale qu'une partie de la communauté internationale des orientalistes et assyriologues s'offusque aujourd'hui de la tenue d'un colloque à Lyon organisé par le pouvoir de Damas et parrainé par deux grandes institutions françaises dont la Maison de l'Orient. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Julie Garraud et avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 évoquera la découverte de la peste bubonique ou pulmonaire au cœur d'Amiens.